Donc nous allons passer la parole à monsieur Daniel Robert-Four, qui est philosophe, qui est enseignant.
Je suis en retraite, je suis un vieillard maintenant, c'est fini.
Et qui est auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Et c'est sur la base de son livre « La cité perverse » que nous avons eu l'idée de l'inviter à Marc Mottant. Nous connaissions déjà M. Dufour par le passé, puisqu'il est déjà bienvenu une fois à la Serte et que nous l'avions invité lors du 40e anniversaire de l'hôpital Marc Mottant. Donc, je vais lui passer la parole.
Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de m'avoir convié parce que je suis très sensible de par mon travail à toutes sortes de questions que vous, ici, vous travaillez en tant que thérapeute, en tant que donnant des soins à des gens qui souffrent d'addiction, alors que moi je suis philosophe. Et donc je travaille sur d'autres considérations que les vôtres, puisque je m'intéresse plus, disons, à ce qui fait que notre société présente des caractères addictogènes. Et donc, qui fait que ceux qui les reçoivent, qui les entendent, finissent par être addicté et dont viennent ensuite vous voir. Mais donc vous voyez que j'ai un grave défaut, puisque je ne donne pas directement des soins, tandis que vous, vous donnez des soins. Moi, je travaille plutôt sur les causes. Voilà. Et donc, les causes, je veux dire historiques, hein, historiques et civilisationnelles. Je vais essayer de m'expliquer là-dessus en commençant par quelques considérations sur quelque chose qui est complètement désuet et qu'on appelle ou qu'on appelait l'amour. C'est-à-dire quelque chose de très ancien maintenant. Et je passerai quelques minutes, 5, 6 minutes, 10 minutes, 5 minutes, à essayer de situer ce qu'il pourrait en être de l'amour, c'est-à-dire des deux grandes formes d'amour, de l'amour hétérosexuel et de l'amour homosexuel. Et après, je passerai a donc des considérations plus actuelles, c'est-à-dire celle qui fait qu'on peut se passer d'amour. Enfin, on croit qu'on peut se passer d'amour. Alors voilà. Donc comme je suis philosophe, j'ai besoin de partir donc d'un certain nombre de considérations philosophiques, et je partirai de considérations modernes, donc, au sens où la modernité commence, disons, après la Révolution française. Fin du 18e, 19e et 20e siècle jusqu'aux, disons, les années 60, où nous passons, je vais m'en expliquer un peu, à une autre période qu'on, philosophiquement, on appelle la postmodernité. Alors, je partirai d'un texte d'un philosophe dont vous avez entendu le nom et qui s'appelle Schopenhauer, texte qui date des années 1830 et qui s'intitule « Métaphysique de l'amour sexuel ». Et en fait, c'est un supplément au quatrième livre du principal ouvrage de Schopenhauer, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle « Le monde comme volonté et comme représentation ». Alors, dans ce texte, Schopenhauer défend la thèse selon laquelle l'amour est une ruse de la nature, dont l'individu n'est que la dupe. Cette thèse est d'autant plus intéressante qu'elle est la seule qui puisse raisonnablement se soutenir contre les éternelles représentations sentimentales de l'amour que Schopenhauer prend pour cible, donc, et prend pour cible en pleine période romantique. Donc le sentiment amoureux est exalté. L'amour de l'autre, l'amour de la nature, tout ce qui peut exalter donc l'amour chez l'individu, dans ses différentes formes. Alors, Schopenhauer soutient une thèse scandaleuse pour l'époque, en affirmant que le sentiment amoureux est second, et que c'est un effet, disons un artefact, et que la nature impersonnelle, alors que l'amour est personnel, la nature impersonnelle, donc, est première. Ce que l'on pourrait dire ainsi, le réel de l'amour précède la dimension imaginaire et symbolique de l'amour. Il en résulte donc qu'il est impossible de comprendre ce temps 2 sans en passer par le temps 1. Temps 2, donc l'amour, temps 1, la nature. Et c'est donc ici que Schopenhauer est très précieux, parce qu'il part de ceci. La nature n'a qu'une volonté, sa préservation. Et elle obtient celle-ci en utilisant des moyens détournés, comme le plaisir individuel, quitte à dissimuler ce côté égoïste, pour le présenter, en généreux sentiments amoureux. Je vous cite un passage bien intéressant qui dit ceci. « Que tel enfant déterminé soit procréé, voilà le but véritable, quoi qu'ignorer désintéressé, de tout roman d'amour. La façon et les moyens de l'atteindre sont accessoires. » Voilà. Donc ce qui intéresse la nature, c'est pas l'amour, c'est que vous fassiez des gosses. Parce que là, elle y trouve son compte. Et donc, comme elle veut vous tromper, eh bien, elle vous donne le beau sentiment amoureux duquel vous vous... avec lequel vous pouvez vous exalter. Alors la thèse de Schopenhauer reste tout à fait soutenable aujourd'hui, pour peu que l'on précise ceci. Il importe peu que le programme naturel se réalise jusqu'au bout ou qu'il soit interrompu dès le début, par la contraception par exemple, ou en cours de route, car ce qui compte c'est l'impulsion inconsciente première, c'est-à-dire la pulsion qui pousse la plupart des individus de chaque sexe vers l'autre sexe. Nous verrons ce qu'il en est pour ceux qui sont poussés vers le même sexe. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que, c'est pour ça qu'on est en pleine période moderne, c'est que Freud reprendra à son compte cette idée de Schopenhauer en mentionnant que, je cite Freud, quelque chose qui s'appelle une difficulté de la psychanalyse, et dans les essais de psychanalyse appliqués, il dit ceci, et il dit que cette idée de Schopenhauer, dans cette idée, la volonté inconsciente de Schopenhauer, autrement dit la volonté de persévérer de la nature, équivaut aux pulsions psychiques de la psychanalyse. Alors, l'hommage de Freud à Schopenhauer est manifeste, et il le présente, Schopenhauer, tout simplement comme son devancier, et il ajoute ceci. « C'est ce même penseur, d'ailleurs, qui, en des paroles d'une inoubliable vigueur, a rappelé aux hommes l'importance toujours sous-estimée de leurs aspirations sexuelles. » Alors, moi-même, je m'inscris... Vous l'aurez compris, dans la lignée de cet hommage à Schopenhauer, et le seul reproche que j'aurais pu lui faire, c'est qu'il a cru qu'il contribuait à une métaphysique, donc de l'amour, alors qu'à mon avis, il ouvrait en grand une question bien différente, celle d'une physique de l'amour, c'est-à-dire celle qui renvoie à la question des bases organiques, et donc des bases réelles de l'amour. Alors, quelques considérations sur l'amour hétérosexuel. Donc je partirai de l'hypothèse qu'il existe au moins deux amours, l'amour hétérosexuel et l'amour homosexuel. Les hétérosexuels, vous le savez, sont ceux qui, probablement, acceptent globalement les déterminations qui découlent du fait que l'espèce humaine, comme une bonne partie du règne animal, est caractérisée par la différence sexuelle, et donc... ils vont voir, puisqu'ils acceptent cette division, du côté de l'autre sexe. Et c'est à partir de quoi peut s'engager une dynamique amoureuse. Alors, cette dynamique est caractérisée par plusieurs temps logiques. J'ai compté quatre temps logiques. 1. La pulsion qui pousse l'un vers l'autre, de l'autre sexe. 2. Le moment de la recherche. Quel autre ? 3. Le moment du choix. C'est celui-ci pour moi femme et celui-ci pour moi homme, de sorte qu'il doit être à moi ou qu'elle doit être à moi. 4. Si bien que j'accepte les suites possibles, un enfant avec lui ou avec elle. toutes ces étapes de l'état, de l'élan amoureux, ont fait l'objet d'une infinie littérature dans la modernité, qui s'agrémente souvent de l'angoisse de perdre pour des raisons diverses, qui sont la jalousie, des conjurations, l'ennui, etc., l'objet aimé. Les grands thèmes des livres et des œuvres d'art sont d'ailleurs ceux qui privilégient un tournant ou une fin tragique, qui empêche donc ce processus en quatre temps de s'accomplir jusqu'au bout. Je vous cite des noms là dans la grande littérature. Les noms, par exemple, de Didon et Énée, Héros et Léandre, Tristan et Iseu, Lancelot et Guenièvre, Roméo et Juliette, Héloïse et Abélard, Rodrigue et Chimène, Judith et Saint-Preux, Paul et Virginie, Hernani et Dona Sol, Ariane et Solal, Colin et Chloé, c'est chez Boris Vian, ça. Donc, toute une partie de la littérature, c'est le récit, en fait, de l'amour, et ça tourne autour de ça. Alors, ajoutons donc à ceci que, puisque ruse il y a, on peut ruser avec la ruse, c'est-à-dire différer, voire déjouer le piège, puisque piège il y a, qui fait que quand on est deux, homme et femme, on risque fort de se retrouver avec un troisième qui s'appelle l'enfant. La pulsion est alors détournée et utilisée à d'autres fins, c'est ce qu'on appelle l'érotisme, où s'accomplissent couramment certaines pratiques que, à la suite des travaux d'un grand anthropologue qui s'appelle François Héritier, qui a enseigné au Collège de France, on peut appeler des pratiques incestueuses, mais pas incestueuses au sens premier du terme, pas au sens mère-fils ou père-fille, mais au sens donc où ça met en jeu le même. Par exemple, quand elle dit que ce sont des incestes du second type, quand par exemple deux sœurs ont le même amant. Elle dit que là, on est dans un inceste du second type, c'est-à-dire qui met en jeu des identiques. Et donc là, il y a beaucoup dans l'érotisme de pratiques incestueuses au niveau du... parce qu'elles ne sont pas fertiles, tout simplement. Pratiques non fertiles. Passons à quelques considérations sur l'homosexualité. Alors, si cette autre forme de sexualité humaine existe, c'est essentiellement parce que nous parlons, c'est ce que j'essaye de faire maintenant et c'est ce que vous faites depuis ce matin, et que le discours permet d'objecter à tout, y compris à la vérité biologique, celle qui fait que nous naissons, dans 99,98% des cas, homme ou femme. Pour affirmer, donc, on parle, et on peut contrevenir à cette vérité biologique pour affirmer ce qu'on pense être sa propre vérité. Je veux dire par là que, alors que l'hétérosexualité procède d'un certain accord entre sa condition biologique et son discours, l'homosexualité procède d'un désaccord. Le discours objecte à la condition biologique. Je suis homme, mais quand même, je me sens femme. Peut-être pas toujours et intégralement, mais au moins quelquefois et au moins sur quelques traits. Précisons donc cette question. Se sentir peu ou prou femme pour un homme ne relève sûrement pas d'un choix volontaire fait par l'homosexuel mâle. En fait, on le sait, ce destin échoit fréquemment à celui qui se trouve dans la situation de ne pas pouvoir désirer une ou des autres femmes, puisque cette position, la femme, est ou a été déjà à peu près entièrement occupée par la mère, avec laquelle se vivait donc, et peut encore se vivre après la mort de cette dernière, une relation non pas incestueuse, mais incestuelle, comme on l'a défini dans certains champs de la psychanalyse, notamment avec les travaux de Racamier. Et donc ce fils devenu adulte, ainsi empêché ou barré dans son désir envers les femmes, se trouve par conséquent, à l'inverse des hétérosexuels, dans la situation de ne pouvoir désirer que d'autres hommes. C'est ce qui le place, qu'il le veuille ou non, du point de vue du désir envers l'autre, dans le camp des femmes. Mais bien sûr, il peut se retrouver dans cette situation en empruntant seulement quelques traits, voire un seul, à la femme. Un trait qui peut même n'être pas immédiatement visible. Pensez par exemple aux bikers américains, qui sont par exemple si fiers de leurs pectoraux, de leurs habits de cuir noir, de leur ventripotence, de leurs grosses motos et de leurs très viriles moustaches. Mais quand même, il y a quand même quelques traits chez eux, un au moins un trait, qui les place de l'autre côté. Mais bref, c'est là où le clivage donc, entre nature et culture joue, puisqu'alors, moi, homme, je peux me reconnaître dans certaines positions ou postures ou signes de la féminité, que ce soit des signes sociaux, des habits, des façons supposément féminines de faire et de penser, de ressentir ou de montrer son corps. Même chose à l'inverse pour une femme qui peut être tentée d'emprunter certains traits masculins. On retrouve donc cette idée que le genre, puisque là on n'est plus dans le sexe, c'est le genre, la différence entre le sexe biologique et le genre qui se construit discursivement, hein, que le genre est un théâtre où un homme et une femme, au lieu de chercher l'issue à leur condition mortelle dans l'autre sexe, montent une scène où ils refont autrement le monde. On peut dire donc que le discours homosexuel objecte à la biologie, mais qu'il n'y a rien à lui objecter. Pourquoi ? Ben pour une raison, je dirais, éthique et politique décisive. Si on parle, c'est pour dire tout ce qu'on a envie de dire, y compris quelque chose qui objecte à une vérité biologique et qui pourrait être ma vérité, qui pourrait. Donc, puisque je parle de l'amour homosexuel, je peux dire qu'il suit globalement la même logique que l'amour hétérosexuel, sauf que, 1. La pulsion devenue incestueuse au sens de Françoise Héritier, donc incestueuse au sens de l'inceste du second type, qui met en relation des identiques, pousse donc cette pulsion un individu vers un autre du même sexe. 2. Le moment de la recherche est aussi intense. Quel autre ? 3. Le moment du choix est aussi saisissant, c'est le cas de le dire. C'est celui-ci pour moi l'homme ou c'est celle-ci pour moi femme. D'où il s'ensuit la possession illusoire, il ou elle est à moi. Le quatrième temps diffère notablement, par rapport à l'amour hétérosexuel, puisque par définition, je ne peux pas faire ou je ne peux pas avoir d'enfant avec lui ou avec elle, sans le recours à des choses que je n'examinerai pas maintenant, le recours à des technologies de procréation. Ce qui a trois conséquences importantes. La première concerne le discours homosexuel, le discours amoureux homosexuel. Puisqu'il ne débouche pas sur l'enfant, il a toutes les chances d'être d'autant plus intense qu'il est quelque part désespéré. Et ce n'est pas à cet égard un hasard que ce soit un penseur qui n'a jamais caché son homosexualité qui est le mieux cerné et décrit l'intensité du discours amoureux. Je parle bien sûr de Roland Barthes, qui a écrit ce beau livre qui s'appelle « Fragments d'un discours amoureux ». La seconde considération concerne l'issue possible de l'union homosexuelle. Puisqu'elle ne peut pas être l'enfant, elle ne peut être que l'érotisme, donc ce que les hétérosexuels, vite ramenés à la vie courante, après quelques exploits érotiques, ne peuvent que leur envier. Et la troisième considération, la troisième conséquence, m'a été un jour révélée par des amis homosexuels new-yorkais, longtemps déjà, 25 ans. Il m'avait dit quelque chose comme ça. Vous, hétéros, vous avez les enfants. Nous, nous avons l'art. Ils sont chanceux, quand même. Hein. Eh bien, cette substitution nécessaire d'objets explique ce que je viens d'essayer de parler. L'éminente contribution des homosexuels à l'art, l'art au sens littéral du terme, est l'art de faire entrer l'art dans toutes les pratiques. Eh bien, l'érotisme et l'art, cela fait deux bonnes raisons expliquant pourquoi les couples hétérosexuels peuvent parfois envier les couples homosexuels. Alors, Voilà, j'ai fini mes premières considérations sur la modernité. Et je passe donc à la modernité pour dire, eh bien, voilà, tout ça c'est fini. Tout ça c'est terminé. Nous sommes passés, c'est globalement, encore certains qui persévèrent, mais nous sommes passés de la modernité à la postmodernité. Du coup, ce qui était toujours vrai jusqu'au tournant des années 60, 68, l'est devenu de moins en moins ensuite. Il y a une explication à cela, c'est que pendant que le marketing reconfigurait le loisir, la culture de marché investissait et reconfigurait l'amour pour le transformer en autre chose. Pour le transformer en autre chose qui pouvait devenir rentable. Comment ? Essentiellement par deux moyens. Eh bien, le premier a consisté à transformer l'érotisme au cœur, dont je viens de le dire, des deux amours, hétéro et homosexuel, en pornographie. Et le second a consisté à exploiter à fond les mécanismes grégaires et égo-grégaires. Égo-grégaire, c'est un terme un peu contradictoire, mais ça veut dire qu'il y a dans la consommation des mécanismes où je crois attraper un objet qui va être absolument le mien, c'est ça le côté égo, mais pour que j'attrape cet objet, je dois entrer dans ce qu'il faut bien appeler les troupeaux de consommateurs. Donc nous sommes pris dans des mécanismes globalement égo-grégaires qui sont à l'œuvre dans la consommation et qui promettent encore plus que la satisfaction des appétences passagères, qui promettent la réalisation pleine et entière de tous les fantasmes. Voyons donc ces deux points. Premièrement donc, de l'érotisme à la pornographie. L'érotisme est libre et gratuit. Il ne dépend que de l'imagination et du désir des individus qui le pratiquent. Eh bien, ceci a été une belle aubaine pour un capitalisme qui, en devenant libidinal, je m'expliquerai sur ce point, et après que, disons, le capitalisme et les maîtres aient accepté après 1929, et surtout après 1945, et surtout après 1960, ce qu'on pourrait appeler une rétrocession de jouissance. Rétrocession de jouissance, c'est-à-dire qu'on a offert quantité d'objets, de plus en plus d'objets de consommation, qui prétendaient combler toutes les appétences. C'est pour ça que le capitalisme est devenu libidinal, parce qu'avant c'était un capitalisme de production. Mais il s'est doublé après 1929, la crise de 1929, puis sa résolution 45, puis années 60. Il s'est doublé d'un capitalisme de consommation qui a apporté à chacun quantité d'objets manufacturés, supposés combler toutes leurs appétences. Pas seulement d'ailleurs des objets, aussi des services marchands que vous pouvez trouver sur le marché, des services marchands sexuels, par exemple. Si ce n'est pas sur le marché officiel, c'est sur le marché noir. Et c'est complémentaire. Et aussi bien aussi des fabrications de fantasmes sur mesure par ce qu'on a appelé depuis lors les industries culturelles. Donc objets, services et fantasmes sur mesure. Donc on peut dire qu'après avoir investi le loisir, parce que le loisir auparavant c'était un loisir, le loisir c'est une vieille notion philosophique, le loisir, vieille notion philosophique, qui était le temps de travail de soi sur soi. Alors, je travaille pour un autre, d'accord, ça c'est le travail pour l'autre, et puis j'ai un temps de loisir. Et le temps de loisir, c'est le temps de travail sur soi, pour s'édifier personnellement, et pour donc faire ce travail d'élévation de soi. Ce n'est plus le cas maintenant. Le loisir, maintenant, est un loisir qui n'est plus un temps de travail sur soi, c'est un temps de consommation et de satisfaction pulsionnelle et passionnelle avec ces objets dont je parlais tout à l'heure. Donc, après avoir investi le loisir en le saturant de consommation, le pas suivant était tout tracé, investir en érotisme. C'est ainsi que l'érotisme, de libre et gratuit qu'il était, s'est trouvé pris en charge par la pornographie, qui, elle, est aliénée, aliénante et saturée de marchandises, vidéos, gadgets, etc., etc., le tout étant payant. L'étymologie est ici éclairante. Pornographie contient le radical grec porné, qui veut dire prostituée, qui vient lui-même du verbe pernémie, qui signifie vente. La pornographie implique donc l'achat et la vente de ce qui a à voir avec des relations sexuelles directes ou indirectes. Ça a toujours existé, bien sûr. Mais avec le tournant libidinal pris par le capitalisme, cela a pris une ampleur considérable, au point qu'aujourd'hui on parle d'industrie du sexe. Et ces industries du sexe comprennent non seulement tout ce qui a trait à la vente et à l'achat de relations sexuelles live, mais aussi ce dont on parlait à l'exposé précédent, les scores, etc., mais aussi à la vente et à l'achat de tout ce qui les représente, ces relations sexuelles. Soit qu'on les évoque par des livres, des articles, ou qu'on les montre dans des bars, cabarets, spécialisés, à la télévision, au cinéma, en vidéo, sur l'Internet, etc., etc. Tout le champ de la cyberpornographie dont je vais plus particulièrement parler. Alors, je n'entrerai pas ici dans le détail, parce que beaucoup de travaux existent sur la question, mais je me contenterai de donner un ordre de grandeur concernant ce qu'il faut bien appeler donc une industrie. L'industrie du sexe, ces industries du sexe, en me référant aux travaux du sociologue et anthropologue canadien Robert Poulin, de l'Université d'Ottawa, qui est un grand spécialiste de cette question. Et il évoque, dans un livre qui s'appelle « La mondialisation des industries du sexe, prostitution, pornographie », il évoque le chiffre colossal de 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an dans le monde, c'est-à-dire à peu près autant, tenez-vous bien, que les deux industries phares de l'armement et de la pharmacie réunies. Ça fait quand même pas mal. Alors, les chiffres de la consommation pornographique sur Internet sont particulièrement impressionnants, on l'a mentionné tout à l'heure, puisque un quart des requêtes faites sur le net sont d'ordre pornographique. Il faut savoir que 30% parmi elles sont féminines. Je reviendrai sur cette question. Il existe 4,2 millions de sites pornographiques Internet, ça, les chiffres datent d'il y a 2 ans, et un site porno moyen peut gagner de façon directe ou détournée entre 10 000 et 15 000 dollars par jour, et jusqu'à 100 000 pour les plus performants. Alors, comment expliquer ces données? Devant de tels chiffres, l'explication usuelle des ligues de vertu, ça existe encore, les ligues de vertu anti-porno, disent généralement, écoutez, c'est l'offre excessive qui suscite la demande. Et je crois que cette explication ne suffit pas. Et elles ajoutent, ces ligues de vertu, s'il n'y avait plus d'offres, il n'y aurait plus de demandes. Autrement dit, fermez ces sites et tout rentrera dans l'ordre. Or, on a déjà essayé cela avec du temps de la prostitution, du temps de la prohibition avec l'alcool, et c'est le contraire qui s'est produit, une explosion de la demande et une multiplication des offres clandestines. Donc il faut chercher l'explication ailleurs. Certes, il y a beaucoup de sites, mais pourquoi tant de gens les regardent-ils? Autrement dit, comment ça marche? Comment le bon peuple se laisse-t-il prendre à ces pratiques, parfois très addictives, on va le voir, et vous l'avez vu, je pense, toute la journée. Moi, je ne suis arrivé qu'à 14h, et l'exposé précédent le montrait parfaitement. Pratiques donc parfois très addictives, au point parfois d'en oublier l'amour. Alors, la réponse se trouve, à mon avis, dans ce schème. Schème assez bizarre, vous allez le comprendre tout de suite. Il faut que cette activité soit ressentie comme libératrice. Il faut que le sujet puisse se dire qu'en regardant des films porno, il se libère de milliers d'années d'oppression puritaine ou religieuse, qui, en l'occurrence, prescrivait l'interdit de la chair. Cet interdit de la chair se fait parfaitement entendre dans ce mot proféré dans l'évangile de Jean, passage 20, paragraphe 17, où Jésus, ressuscité le dimanche de Pâques, dit à l'adresse de Marie-Madeleine, la bien-aimée prostituée repentie, mais mou aptou en grec, traduit par noli me tangere en latin par Jérôme, soit en français, ne me touche pas, ou mieux, ou plus exactement, ne me touche plus. Ne me touche plus, interdit de la chair. Eh bien, c'est cette proscription millénaire de la chair dont le porno permet de sortir. Comme si celui qui regarde un film hard se trouvait dans la position de pouvoir enfin se dire « Toi, la pute, la femme, toutes les femmes, touche-moi. » Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup d'addictions, depuis 1929, depuis le lancement de ce capitalisme libidinal qui a sorti le capitalisme de la crise à partir de 1929, beaucoup d'addictions se font sur cette promesse de libération. Je n'ai pas le temps de vous raconter ça, vous le trouverez donc dans La Cité Perverse, c'est dans mon livre. En deux mots, donc, en 1929, des industriels du tabac avaient une grave question à résoudre. Comment se fait-il que la moitié de l'humanité ne fume pas ? C'est emmerdant, hein, ça, pour un industriel du tabac. Et les femmes, pourquoi elles ne fument pas ? Pourquoi, dès qu'elles portent une cigarette, avant 1929, à la bouche et qu'elles l'allument, elles sont considérées comme des dévergondées ? Et donc, le marketing a résolu la question. Et ce n'est pas n'importe quel marketing man qui a résolu la question, c'est Edward Bernays. Edward Bernays, c'est le neveu de Freud, qui avait entendu quelque chose de son oncle, et qui a mis au point un dispositif marketing pour que les femmes puissent accéder au bonheur du tabac. Et donc, il a mis au point un dispositif que j'ai pas vraiment le temps de vous appeler, mais de vous montrer, mais ça consiste globalement en ceci. C'est la cigarette que les hommes portent à leur bouche, c'est leur attribut. C'est métonymie de l'attribut viril. Eh bien, piquez-leur aux hommes, leur petit pénis portatif, et vous en aurez rien. Vous libérerez les hommes. Et c'est comme ça que la promesse de libération aux femmes a été faite, donc, et que Edward Bernays a organisé un événement incroyable le jour de Pâques, en 1929, sur la 5e avenue, en prenant un défilé de superbes mannequins qui, devant les caméras et les appareils photos du monde entier, ont sorti des cigarettes, les ont allumées, et ont appelé ça, allumer donc le « torches of freedom », les torches de la liberté. La libération de la femme avait sonné. Et donc la femme se libérait de l'oppression de l'homme en ayant son petit truc portatif dont elle faisait ce qu'elle voulait. C'est comme ça qu'on libère, c'est comme ça que le capitalisme libère les individus en les aliénant. Et c'est pas pour rien que c'est extrêmement addictif le tabac. Mais avec le porno, c'est la même chose. Libérez-vous donc de l'interdit de la chair. Donc promesse de libération, c'en est une. Sauf que quand elle se réalise, elle ne peut se faire qu'au prix d'une réelle addiction. Eh bien, pour comprendre comment fonctionne cette addiction, il faut en revenir à celle que j'ai citée tout à l'heure, Françoise Héritier. Elle fait en effet de la différence mâle-femelle ce qu'elle appelle l'ultime butoir pour la pensée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre en dessous. Je vous lis ce passage ce butoir, dans ce qu'il y a au plus profond, le cerveau limbique. Ce butoir est constitué d'éléments du réel immuables et récurrents, qu'il n'est pas possible de décortiquer pour les réduire en composants plus fins, et dont il faut s'accommoder, qu'il faut intégrer malgré tout dans une perspective commune dotée de sens. Dans l'hypothèse que j'établis, le tout premier butoir, au sens logique et non chronologique, est la constatation tout à fait étonnante que l'esprit humain fait de la différence sexuée. Il y a toujours des mâles et des femelles. Il y a là un grand clivage cognitif qui ordonne le réel selon le critère de l'identique et du différent, fondé prioritairement en esprit sur le partage mâle-femelle. Il y a un truc comme ça au fond de nos cerveaux limbiques d'être humain. Autrement dit, donc, on retrouve dans l'esprit humain, et même à la base de l'esprit humain, ce réel de la division sexuée, soit un élément invariant que les différentes cultures peuvent représenter différemment. Or, de récentes recherches permettent de penser qu'on peut, sur ce point, passer de la structure de l'esprit à l'organisation du cerveau. Et la perspective ouverte par Françoise Héritier y invite d'ailleurs explicitement, puisqu'elle s'interroge sur ce qu'elle appelle les racines corporelles de la pensée. C'est là-dessus que ça va jouer, tous ces mécanismes. Les racines corporelles de la pensée, à partir de ce point de départ ou ce point butoir, la différence mâle-femelle. Alors, il est loisible de penser, au vu du résultat de ces récentes recherches que je vais évoquer, que cette différence serait inscrite dans la région la plus profonde du cerveau, celle du système limbique. Donc, zone non langagière, mais siège des diverses émotions comme fondamentales, comme fondamentales, qui fondent le mental, comme l'agressivité, la peur, le plaisir. Hypothèse donc que Françoise Héritier évoque explicitement. Je ne ferai état ici que de deux recherches. Je sors de mes compétences de philosophe, mais je pense avoir été bien renseigné en allant voir du côté de ces recherches, puisque j'ai pris des recherches qui ont été publiées par la revue PLOS ONE, qui est une revue scientifique de haut niveau, qui est en ligne. La première a été menée par des chercheurs de l'Université de Finlande, et ils ont montré, ces chercheurs, que le cerveau traitait les images des corps nus beaucoup plus intensément que les images des corps vêtus. L'expérience est simple, elle a consisté à montrer à des participants des photos d'hommes et de femmes, soit habillés, soit portant des maillots de bain, soit nus. Et les réactions cérébrales visuelles des participants étaient enregistrées à partir de la mesure de l'activité électrique de leur cerveau. Donc quand ça clignote fort, c'est qu'ils réagissent fort à ces images. Et bien sûr, il est apparu que les réponses cérébrales des hommes étaient plus fortes face aux images de femmes nues que face au corps d'hommes nus. Tandis que les réactions des cerveaux des participantes féminines, plus fortes pour elles aussi, devant des corps nus d'hommes. L'enseignement est clair, le cerveau humain réagit à la nudité. Si le cerveau limbique réagit ainsi, c'est très probablement pour des raisons très archaïques tenant à la nécessité d'identifier des partenaires prédisposés à l'accouplement pour dans son environnement pour que la ruse de la nature, pour que la nature puisse persévérer en son être. Et une autre recherche récente permet d'aller un peu plus loin, ou même beaucoup plus loin. C'est celle de chercheurs de l'université de Utah, aux États-Unis, qui ont montré qu'un visage masculin reconnu comme attractif, c'est-à-dire symétrique et mâle, je ne sais pas ce que c'est, mâle, et une morphologie corporelle masculine harmonieuse, ça on sait ce que c'est, rapport épaule-hanche, l'optimum étant atteint avec des épaules larges et des fesses musculeuses étroites. Si vous voyez ce que je veux dire, déclenchait la production d'hormones féminines qui activaient une zone particulière du cerveau limbique féminin, Et les chercheurs en ont conclu que le visage et la morphologie corporelle de l'homme sont subconsciemment utilisés par la femme comme un signal biologique de sa qualité génétique. Quant à la perception subconsciente des femmes par les hommes, il passe en partie par le rapport taille-hanche, c'est-à-dire le rapport taille-fesse, indicateur important de fécondité, puisqu'après la ménopause, l'œstrogène favorise la localisation de tissus adipeux au niveau des hanches. Alors ce rapport taille-hanche est donc positivement corrélé à la fécondité et à la présence d'hormones de la reproduction, à la capacité de conception, et inversement corrélé à la survenue de cancers, de dépressions et de maladies cardiovasculaires. Alors ce rapport représenterait une caractéristique sexuelle pouvant influencer l'attractivité spontanément ressentie par un homme pour une femme. Pour cette partie d'étude, le protocole utilisait des photos de femmes nues, cependant que les participants notaient de 1 à 5 l'attractivité ressentie pour chaque photo présentée, et que des scanners cérébraux clignotaient, visualisaient donc quelles zones cérébrales étaient activées, stimulées ou non. Les images cérébrales enregistrées montraient une activité de certaines parties du cerveau limbique, ce fameux siège des émotions, du cerveau orbitofrontal, qui entre en jeu dans les processus de décision, et du cortex occipitolatéral, qui est le siège de la vision. Ça se met en rapport. Le rapport taille-hanche stimule donc taille-hanche chez les femmes, stimule donc directement la zone cérébrale limbique impliquée chez l'homme dans le processus de recherche de partenaires féminins, dans l'évaluation sociale et dans la prise de décision. À noter toutefois que ce cerveau limbique reste sensible à des données de culture, puisque chez les Occidentaux, le rapport taille-hanche idéal se situe à 0,7. Comme par hasard, Marilyn Monroe, Sophia Loren ou encore la Vénus de Milo étaient dans ce rapport. En revanche, les Chinois sont davantage stimulés par un rapport taille-hanche de 0,6, alors qu'en Afrique, il se situe entre 0,8 et 0,9. Alors, si ce cerveau limbique est sensible à des données de culture, il y a tout lieu de penser qu'il est aussi sensible à des données relevant de l'histoire personnelle, par exemple celle de l'orientation sexuelle. C'est pourquoi il serait intéressant de faire ces mêmes expériences avec des participants homosexuels. Les résultats pourraient réserver bien des surprises. On peut imaginer, je ne sais pas, j'ai envoyé mon article, j'attends qu'ils me répondent, je leur suggère de faire ces mesures. On peut imaginer 3 possibilités. Premièrement, les participants homosexuels réagissent comme des hétérosexuels. Deuxièmement, ils réagissent d'abord comme des hétérosexuels et ils corrigent ensuite leur réaction, en étant plus donc du côté de la sensibilité à ceux du même sexe. Troisièmement, les homosexuels hommes réagissent peu ou prou comme les femmes et inversement pour les homosexuels femmes. Donc, soit l'une des possibilités l'emporte, soit non. Et dans ce cas, il faudrait connaître la proportion de chaque groupe. Alors, et donc là, peut-être que l'on sera capable de dire si l'homosexualité n'est affaire que du cortex cérébral ou si elle descend jusqu'au cerveau limbique. Pour l'instant, on n'en sait strictement rien du tout. Bon. Et moi, je serais extrêmement curieux de connaître donc les résultats de telles expériences. Mais donc, avant même que les expérimentalistes expérimentent de recherche, j'ose me permettre de leur suggérer d'aller jeter un coup d'œil du côté de la problématique freudienne de la pulsion. Parce qu'ils apprendraient que, bien loin que celle-ci soit ou ne soit qu'un vecteur susceptible d'allumer des témoins électriques placés par les neuroscientifiques, la pulsion possède une dynamique propre. En effet, dit Freud, la pulsion peut se renverser en son contraire et se retourner sur la personne propre, au point que l'on pourrait parler ici d'une ruse de la pulsion qui peut donc éventuellement s'ajouter à la ruse de la nature. Par exemple, lorsque Freud remarque le renversement et le retournement observés dans la clinique de l'activité en passivité et du sadisme en masochisme. Ben c'est là encore une hypothèse qui mériterait d'être élargie au renversement et au retournement éventuel de la masculinité en féminité. Ces deux destins possibles de la pulsion s'avérant donc d'autant plus, beaucoup plus rusés qu'on ne le croit généralement, permettraient de concevoir toute une gamme d'expériences à propos de l'homosexualité pour savoir où est-ce qu'elle se situe au juste dans les différentes strates du cerveau. En effet, l'hypothèse deviendrait alors la suivante. L'homme homosexuel étant celui qui tend à se mettre peu ou prou à la place de la femme qu'il convoite en tant qu'homme, je répète, l'homme homosexuel pourrait donc être considéré comme celui qui tend à se mettre peu ou prou à la place de la femme qu'il convoite en tant qu'homme, c'est le renversement. Il recherchera alors un homme pour combler cette femme, c'est le retournement sur lui-même. Et si l'expérience vérifiait cette hypothèse, alors on pourrait parler de la coexistence d'un cerveau limbique hétérosexuel et d'un cortex cérébral éventuellement homosexuel, où se produisent le renversement et le retournement. Eh bien, j'espère un jour que le vieux Freud soit entendu par les neurosciences. S'il y a des neuroscientifiques parmi vous, je leur fais un signe pour qu'ils aillent voir un petit peu de ce côté-là. Ça permettrait beaucoup de choses. Je pense que tout le monde y gagnerait. Les neurosciences pourraient un peu se déniaiser de schémas assez mécanistes, et la psychanalyse, devenue trop abstraite, c'est-à-dire oublieuse du corps, hein, pourrait y trouver quelques comptes. Alors, dans cet ordre d'idées, il serait très intéressant d'établir une liste des critères que le cerveau limbique met spontanément en jeu pour identifier le bon partenaire, le regard, la voix, la peau, l'odeur, la pilosité, la taille et la forme de la poitrine, des organes sexuels, des fesses, etc. Nous verrions ainsi que notre cerveau limbique, et là on est toujours dans la ruse de la nature, décide pour nous de quantité de choses sans nous demander notre avis. À charge pour notre cortex, le lieu de la décision, d'assumer ou non ces décisions. Comme l'a très bien formulé Françoise Héritier, je cite, « Tous ces modes de perception et d'action, nous les portons ignorés au fond de nous-mêmes, dans nos cerveaux limbiques peut-être, comme nous ignorons superbement leur existence dans la loi. Cela laisse supposer que nous serions dotés d'une intelligence inconsciente ou subconsciente, capable d'évaluer sans cesse son environnement en fonction de ce critère princeps, la différence mâle-femelle. Le terme « évaluer » ne doit pas tromper. Il ne s'agit pas d'une opération intellectuelle raisonnée, mais d'un signal, en l'occurrence chimique, puisque l'activation donc, de ces zones entraîne la production d'une substance dont vous avez parlé, je suppose, depuis ce matin, la dopamine, laquelle provoque le désir de l'action et le plaisir par anticipation. Il n'y a donc plus alors qu'à passer à la dite action. Et lorsque cela arrive, d'autres neurotransmetteurs sont produits, ceux du plaisir immédiat, les endorphines, qui sont des composés opioïdes. Ce n'est pas la peine ici que je vous dise ce que c'est. Ce sont des substances aux effets similaires à ceux de l'opium, sans y être chimiquement assimilés, apparentés. Et ce plaisir est d'autant plus intense que celui procuré par la dopamine est plus intense que celui procuré par la dopamine, mais plus court. On peut donc dire que la dopamine et l'endomorphine, ce sont les noms chimiques de la ruse de la nature identifiés par Schopenhauer pour que les individus d'un sexe s'intéressent à l'autre, y compris avec tous les mécanismes d'inversion. Voilà donc comment, l'un dans l'autre, si je puis dire, la nature nous piège, en nous dopant et en nous shootant. Rien de tel qu'un petit shoot de dopamine suivi d'une bonne dose de morphine endogène pour nous mettre le cœur à l'ouvrage. L'amour peut même s'en suivre. Mais cela suppose que le cortex cérébral s'invite à la partie qui se joue et ajoute le raisonnement à la chimie profonde. Bref, je crois qu'il fallait passer de l'esprit au cerveau pour comprendre comment l'industrie pornographique opère, en détournant de leur but ces processus vitaux. Comment ? Eh bien, en profitant du fait que cette zone cérébrale limbique est également celle qui est impliquée dans la recherche de drogue et ou d'alcool. Autrement dit, la perception subconsciente de la configuration corporelle de la femme active chez l'homme hétérosexuel les mêmes zones que celles impliquées dans la recherche de drogue et dans les comportements addictifs. Et inversement pour la femme hétérosexuelle. Avec probablement les mêmes schémas à l'envers pour les homosexuels. Donc pour tous, cela commence avec une excitation ressentie devant des corps nus, bien proportionnés, filmés, qui sera d'autant plus forte que ceux-ci sont montrés en action sexuelle. Cela enclenche, en effet, l'activité de cette catégorie de neurones qu'on appelle les neurones miroirs, qui réagissent aussi bien aux actions de soi que d'autrui. C'est pour ça qu'on les appelle miroirs. La particularité de ces neurones, je le rappelle, tient au fait qu'ils enclenchent des potentiels d'action même lorsque l'individu est immobile, mais qu'il voit ou entend ou imagine une action similaire effectuée en live ou sur un grand ou sur un petit écran par un autre individu, même quand l'individu n'est pas exactement de la même espèce que lui. Plus c'est de l'approche espèce, plus c'est encore mieux quand c'est l'espèce elle-même, la même espèce. Mais, donc, ça fonctionne sur tout ce registre. Ce qui laisse à penser que ces neurones miroirs pourraient bien être le support physique de l'activité imaginaire. Imaginaire qui met donc en jeu des images, et qui fait que l'image, donc, frappe, stimule et active. Alors, l'excitation ressentie devant un film porno stimule alors, comme je l'ai dit, le système dopaminergique, où la dopamine est précurseur de l'adrénaline et de la noradrénaline, à partir du cerveau limbique, qu'on appelle l'hypothalamus. Ce qui provoque donc des poussées pulsionnelles impérieuses, l'envie, le désir ardent. Ce qui peut être satisfait, ce qui ne peut être satisfait que par un passage à l'action qui, elle, produit des endomorphines. Quelle action, en l'occurrence ? Eh bien, puisque nous sommes dans le cadre pornographique ou cyberpornographique, il suffit de demander à une experte, par exemple, l'ex-pornostar Tiffany Hopkins. Elle définit la pornographie comme, je cite, un objet de divertissement qui a pour finalité la masturbation. C'est une définition d'experte. Elle est claire, elle mérite de la clarté. Autrement dit, la plus prisée des activités pré-œdipiennes, potentiellement incestueuses au sens de Françoise Héritier. Je vais y revenir. Et donc ainsi s'enclenche le cycle addictif, celui-là même dont on a parlé dans l'exposé précédent, qu'on peut se représenter ainsi. Visionnement d'un film porno, excitation, hausse du niveau de dopamine, envie, masturbation, plaisir immédiat dû aux endomorphines, baisse du niveau de dopamine, dépression plus ou moins longue, recherche de compensation, visionnement de film porno, excitation, hausse du niveau de dopamine, envie, masturbation, plaisir immédiat dû aux endomorphines, dépression, etc. Eh bien, dans cette addiction au porno, au cyberporno, la particularité vient du fait que la drogue ne vient pas de l'extérieur, mais elle est en quelque sorte fabriquée par le drogué à la vue du film. Ça coûte moins cher, il suffit de payer le film. Le résultat est cependant le même que dans les autres addictions. Pour continuer à retrouver la force des premières excitations, l'addict va se trouver contraint d'augmenter les doses, ce qui, pour la pornographie, se traduit par la recherche de scènes toujours plus extrêmes ou violentes. Et de fait, l'industrie du porno ne cesse de fabriquer des scènes de plus en plus hardes. On est passé ainsi des classiques partouzes aux gangbangs, viol collectif avec simple, double, triple pénétration, peut-être même plus. De surcroît, l'industrie porno a inventé d'autres pratiques hardes. Je vous les cite. Le boukake, où un groupe d'hommes éjacule à tour de rôle sur une personne, de préférence sur le visage. Il existe une variante, le gokun, qui consiste à recueillir leur sperme dans un récipient afin que la personne le boive ensuite. L'ondinisme se rapporte à l'urine, soit on la boit directement à la source, ou dans un verre où l'on a recueilli le précieux liquide. Le fisting, enfin, consiste à pénétrer le vagin ou le rectum avec le poing. Mais l'industrie porno peut aller plus loin, jusqu'à la coprophagie, la zoophilie ou la nécrophilie. Mais en bref, il y en a pour tous les goûts. Le porn addict peut demander tout ce qu'il veut, le marché de la pornographie le lui donnera. Eh bien, ainsi dopé et shooté, le consommateur se trouve piégé, du coup, piégé par le piège de la nature détourné, et développe alors une dépendance à la pornographie, dont, un, il a le plus grand mal à se libérer, et où, deux, il recrée un monde irréel à milieu de ce que les relations réelles exigent. Les relations réelles minimum, c'est considérer l'autre, voire même, pour les plus imprudents d'entre nous, voire même aimer l'autre. Ce qui, donc, l'entrée dans ce monde irréel ne peut déboucher que sur certaines inaptitudes à l'amour, voire même à une inaptitude certaine à l'amour, puisque la marchandise porno, qui a aujourd'hui envahi l'imaginaire sexuel, impose un modèle tel que les individus, seuls ou en couple, sont réduits à se comporter de plus en plus comme des acteurs de films porno. Le discours amoureux sera alors au mieux remplacé par un discours du management s'appliquant à la gestion, je choisis mes termes, de son capital sexuel. C'est alors le discours du capitalisme qui envahit la sexualité. On est passé d'une jouissance qui impliquait deux personnes, telle que l'une jouit aussi de la jouissance de l'autre, à une jouissance égoïste, qui est d'allure parfaitement sadienne. Je développe beaucoup ce travail, cette analyse-là, dans ce livre qui donne donc le titre à cette communication, La cité perverse. Par exemple, Sade, dans la philosophie, dans le boudoir, fait déclarer à ce qu'il appelle un scélérat. Mais pour lui, un scélérat, c'est un terme positif. C'est celui qui consent à toutes ses pulsions. L'autre est un imbécile. Le scélérat, lui, il a le courage, entre guillemets, de céder à toutes ses pulsions. Et donc, il fait dire à Dolmancé, le scélérat, à Eugénie, donc, Eugénie, la fille qu'il faut éduquer, il dit ceci: l'idée de voir un autre jouir ramène à une sorte d'égalité qui nuit aux attraits indicibles que fait éprouver le despotisme. Sade avait déjà devancé la mise en place de tout ça, et ce n'est pas un hasard, puisque Sade termine le XVIIIe siècle, dont le début du XVIIIe siècle est caractérisé par la mise en place du discours libéral, c'est-à-dire du discours qui dit qu'il faut que chacun ne considère que ses intérêts propres et que sa jouissance propre. Alors, il y a deux films et des objets de culture qui travaillent ça. Vous travaillez ici à votre façon, moi je travaille en philosophe, mais il y a des objets de culture qui travaillent ces questions dans la culture à leur façon. Il y a deux films récents qui illustrent bien ce tournant. Le premier est celui du plasticien et réalisateur, au moins deux films, il y en a d'autres. Celui du plasticien et réalisateur britannique Steve McQueen. Le plasticien, pas le Steve des années 60. Dans un film qui s'appelle Shame, avec Michael Fassbender. On y voit les tribulations d'un trentenaire new-yorkais, youpie, porn addict, qui se masturbe dans son bureau, c'est exactement les descriptions que vous faisiez tout à l'heure, et devenu complètement inapte à l'amour. Il ne sait plus du tout ce que c'est, ça ne marche pas, il ne sait pas comment faire. Et le second film est un film aussi que j'ai trouvé extrêmement intéressant, qui est tourné en deux parties, qui est le film du réalisateur danois, Lars von Trier de 2014, qui s'appelle Nymphomaniaque. Et je trouve que ce film mérite quelques considérations particulières, puisqu'il interroge, avec les moyens du cinéma, l'air du temps concernant la sex addiction. Il part de ce désir excessif connu de tout temps, qui faisait dire déjà à Aristote que la pulsion chez l'homme est insatiable. Tellement insatiable, disait Aristote, qu'il fallait édifier une forme de discours ou de raison qui fasse à encore du désir à l'état brut, la pulsion, donc un discours qui pouvait dire « assez, du calme, calme-toi ». Ce qui pouvait du coup contraindre, ou du moins permettre à ce désir de sortir de l'illimitation afin de rentrer dans une limite personnellement et socialement acceptable. Or, nous ne sommes plus maintenant dans des sociétés qui promeuvent la limite. No boundaries, disent les publicités. Pas de limite à ton désir. Fais ce que tu veux. Si tu n'oses pas faire ce que tu veux, t'es un con. Tu te feras rouler par tout le monde. Ose, fonce, vas-y, do it. Bon. C'est le discours du marketing, ça. Fonce, vas-y. Pas de limite. Donc, c'est précisément parce que cet idéal, donc, du without boundaries, sans limite, a triomphé aujourd'hui dans la culture postmoderne, qu'on se retrouve aujourd'hui à devoir faire face à nouveaux frais, à l'insatiabilité du désir. Et c'est là où l'approche de Lars von Trier est très intéressante et parfois très très drôle. Des fois on meurt de rire dans ce film, car il met en jeu non plus des contes qui étaient fournis par les grands récits. Les grands récits, ça avait une fonction de calmer le fonctionnement pulsionnel. Dans tous les grands récits, il y a un catalogue de mesures. Ça s'appelle un décalogue. Les commandements, les 10 commandements ou les 10 paroles. Fais pas ça, 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 ça t'as pas le droit, etc. Bon, c'était un peu répressif, mais ça calmait les gens. Maintenant, on est dans un autre récit. C'est vas-y, fonce, fais-le. C'est pour ça qu'on a changé de période. On est passé de la modernité à la post-modernité. Et donc, ce film de Lars von Trier n'est plus en jeu des contes, des grands récits, mais il met en jeu des façons de compter, parce que maintenant il faut compter. C'est le gouvernement par les nombres, comme on dit. Il faut compter, il faut gérer au maximum, au mieux. Donc des façons de compter pour essayer de comprendre la logique de ce désir excessif. C'est-à-dire que ce discours met en jeu non plus la lettre et la loi, mais met en jeu le nombre et le calcul. Voilà, nous sommes La lettre et la loi, l'écrit n'a plus beaucoup, et la loi n'ont plus beaucoup d'importance. Mais le calcul aujourd'hui, lui, maximise tes profits, surtout. Et comme on l'a déjà vu, donc nous vivons, comme je viens de le dire, on vit dans quelqu'un qui est un professeur, un autre professeur au Collège de France, un de mes amis par ailleurs, Alain Supiot, appelle le gouvernement par les nombres. On est gouvernement par les nombres ou par des algorithmes. On ne jure plus désormais que par la recherche du meilleur PIB, de la meilleure note fournie par telle ou telle agence d'évaluation, de la meilleure performance, de la meilleure maximisation de son profit, etc., etc., etc. Donc, dans ce film, on compte, surtout dans l'opus 1 de Nymphomaniaque. Et l'héroïne, donc, elle est dédoublée, vous savez, il y a Charlotte Gainsbourg qui joue, elle est dédoublée, je dis, c'est une scène. Elle compte. Et c'est ainsi qu'elle compte y faire avec son désir sexuel insatiable. Et du coup, elle apparaît comme hyper adaptée. Elle seule, par exemple, sait faire un créneau serré avec une voiture en suivant des lois géométriques mystérieuses qui lui permettent de se garer à toute allure, parce qu'elle a la géométrie et le nombre dans la tête. Par exemple, elle a noté aussi le nombre minimal de coups reçus par devant et par derrière pour régler la question de son dépucelage. Et en a tiré certaines conséquences sur le nombre de coups optimal à venir. Il en faut 3 pour commencer et 5 pour finir. Et ça marche à tous les coups. Elle a compté le nombre maximal d'hommes à se faire dans un wagon de chemin de fer pour gagner la récompense qu'elle et une amie se sont fixées dans leur concours. C'est un paquet de chocolat. Elle sait jouer au dé pour régler la complexe dynamique amoureuse de ses multiples relations, en utilisant, puisqu'elle a plein de partenaires, toutes les nuances qui vont avec un dé, jette un dé. C'est comme ça qu'elle gère ses relations amoureuses. L'amour, c'est ça, jette un dé. Qu'est-ce que je dois te dire? Je t'aime ou je t'aime pas? Donc, je joue au dé, donc 1, ça veut dire je t'aime. 6, ça veut dire je t'aime pas. L'amour, c'est ça. Et je ne sais pas si vous avez vu le film. Vous avez vu ce film?
Non.
Oui, certains d'entre vous l'ont vu. Oui. À la fin du film, elle rencontre un vieil érudit qui s'appelle Seligman, qui lui amène donc quantité d'éléments de calcul sur le théorème de Pythagore, la section d'or, etc., etc., etc. Bon, je vous passe tout ça. Et donc, moyennant tous ces instruments de calcul, il y a un moment où elle se fantasme en institutrice immorale en train de se masturber avec les outils pédagogiques du calcul. Elle se masturbe avec une règle, avec un triangle, avec un demi-cercle. Et elle aime ça. Mais il y a un revers, évidemment, sérieux à cette médaille de l'hyperadaptation. Et c'est là où tient peut-être le côté très sérieux du film. Son gouvernement par les nombres laisse cette personne, Joy s'appelle, complètement désemparée lorsque l'amour, qu'elle évite, se présente malgré tout, et même se représente sous les traits de Jérôme, qui est joué par Shia LaBeouf. Et il en est tiré une morale, si je puis dire, très actuelle. Le prix à payer pour une jouissance insatiable, c'est la perte de l'amour. Perte sèche, comme telle inquantifiable, échappant donc au calcul. La question de la limite se reposerait alors, non pas comme consécutive à un jugement moral, mais comme permettant la possibilité de l'amour. Pour l'amour, il faudrait une limite. Ce qui renvoie donc à tout un champ de questions que sur les différentes formes de l'amour qui sont débattues depuis les Grecs. Alors, ça me permet de synthétiser mon propos, et je vais le synthétiser sous la forme d'un aphorisme. Voilà, je formerai ce petit aphorisme. autrefois, l'amour impliquait le coup de foudre, et aujourd'hui, la pornographie implique le coup de foutre. J'étais sûr que ça vous plairait. Je l'ai préparé spécialement pour vous. Alors, à toute cette pornographie, revenons sérieux, à toute cette pornographie hard, s'ajoute donc une pornographie clean. Je pense par exemple à tout ce qui se développe dans l'industrie en pleine croissance des jouets sexuels, donc les sex toys. Ce sont des objets électriques ou électroniques de toutes les formes possibles et pour tous les sexes qui s'appliquent à tous les lieux possibles du corps où une jouissance peut être obtenue. Certains s'exhibent même en public, comme par exemple ces tétines pour adultes. On voit des fois des gens qui se promènent avec une tétine à la bouche. Mais ce qui tend donc encore à confirmer les tendances actuelles donc de la les tendances de l'adulte actuel de l'adulte à la perversion polymorphe. Autrefois, la perversion polymorphe, c'était la perversion de l'enfant. Maintenant, la perversion polymorphe, c'est aussi bien celle de l'adulte. Et donc, les sextoys sont désormais tellement répandus qu'on en trouve dans les magasins de lingerie, dans les catalogues de vente de linge, par exemple en ligne, dans les magazines féminins qui vous offrent des sextoys en cadeau, et pour leur permettre, donc, il y a par exemple, j'ai repéré une publicité qui, donc, c'est une ligne de sex toys où une amie devient vendeuse de sex toys pour d'autres amis qu'elle convoque chez elle, comme autrefois on faisait avec les Tupperware. Donc, il y a toute une gamme, on peut essayer, etc. On convoque ses amis, etc. Et donc, il y a maintenant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le sextoys, on reste dans le cadre masturbatoire. Non pas que l'individu se masturbe lui-même, mais il se livre aux bons soins, c'est-à-dire aux bonnes chatouilles, d'un masturbateur mécanique, dont il peut régler à volonté, sur les modèles chers, tous les paramètres. Sauf si l'engin se dérègle. En cas de courjus, je ne sais pas ce qui se passe. Mais bon, à la masturbation proprement dite, s'ajoutent donc d'autres formes, friction, suçotement, chatouille, etc. Et Freud englobait ensemble toutes ces formes dans le terme d'onanisme, dans un texte qui s'appelle « Les fantasmes hystériques et la bisexualité », qui désigne pour lui donc l'activité perverse polymorphe caractéristique de la sexualité infantile, dont nous voyons donc de plus en plus qu'elle tend à s'étendre à l'adulte. Donc cette, je ne parle pas de forme perverse au sens classique du terme, je parle de la perversion polymorphe de l'enfant qui s'étend donc à l'adulte. Quand on travaille un peu sur cette question, on croise de temps à autre Lacan, puisque il parle quant à lui de la masturbation comme relevant, je cite, de la jouissance de l'idiot. La jouissance de l'idiot. L'idiot, en l'occurrence, du point de vue étymologique, c'est celui qui ne veut rien savoir de la castration, qui se croit non entamé par le langage, et qui reste donc dans la toute puissance infantile. Et l'expression de Lacan est bien trouvée, puisque l'idiot, c'est d'abord, avant de désigner comme aujourd'hui l'ignorant, le sot, etc., l'imbécile, l'idiot, littéralement, étymologiquement, c'est celui qui reste tout seul. Et bien donc, le prix à payer pour cette jouissance idiote, c'est de ne rencontrer ni l'autre, ni le langage, j'ai pas besoin de parler, c'est même superflu, ni l'autre, petit autre, celui qui, avec lequel je parle et que je peux éventuellement désirer. La jouissance de l'idiot est donc une jouissance singulière, étrangère, à ce qu'on pourrait appeler la belle jouissance, la jouissance de l'autre avec l'autre, où il fallait parler, construire toute une stratégie discursive, écrire des poèmes, envoyer des formes qui étaient des formes suggestives à l'autre, voir comment il y répondait, puis passer donc à cet érotisme, donc d'un érotisme du langage à un érotisme des corps. Tout ça maintenant est assez désuet. Ça sert à rien, ça va pas au but assez vite. Alors tout ça, je vais bientôt terminer, tout ça me ramène à une discussion que j'avais eue avec un copain qui est philosophe et mathématicien, qui est prof à Polytechnique. Vous connaissez peut-être ses bouquins, qui s'appelle Olivier Rey. Il travaille aussi beaucoup sur ces questions. Et on en est venu à la conclusion que le capitalisme était vraiment très 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 fort. Parce qu'il a été le seul régime au monde capable de transformer une activité aussi vaine que la masturbation en une activité rentable. Bon, donc, c'est un peu ça l'époque, c'est jouir à fond, mais tout seul. Tout seul, c'est-à-dire de façon idiote, je dirais de façon narcinique, pour conjoindre cynisme et narcissique. Narcissique, donc. Même quand on fait ça à deux, à trois ou en groupe. Donc fabrique d'idiots, voilà, fabrique d'idiots à la chaîne. C'est ça aussi le capitalisme libidinal. Et c'est ce discours qui s'adresse à vos patients, et c'est là-dedans, c'est à ça à quoi ils répondent. Hein. Juste un mot pour finir, puisqu'on est dans ce registre donc de la consommation des industries du sexe. Il faut noter que des gains de consommativité peuvent être réalisés, c'est-à-dire augmenter la consommation. Des gains de consommation, on appelle ça la consommativité. Et que de nouveaux marchés peuvent s'ouvrir. Je vous ai raconté tout à l'heure, en vitesse, comment les femmes avaient pu se libérer grâce à l'American Tobacco en 1929. Et ils sont depuis entièrement libérés. Bon. Eh bien, ça recommence maintenant parce que il existe une réserve de clientèle forte du côté des femmes, du point de vue de la cyberpornographie. La preuve, c'est qu'elle ne représente que 30% des requêtes porno sur Internet. Seulement un tiers, alors qu'elles sont la moitié de l'humanité. Donc c'est pas normal, ça, pour le capitalisme. Il y a des gains à faire. Eh bien, le discours est rodé, il faudra libérer ces pauvres femmes, encore inhibées par l'interdit de la chair, et il faudra qu'elles se libèrent. Il faut donc que les jeunes filles s'y mettent, de même que les ménagères de plus de 50 ans. Il existe des produits pour tout le monde. Osez donc, osez Joséphine, osez la divine sodomie, osez la double pénétration, osez l'amour à trois, osez l'adultère, osez la pornographie, osez l'amour avec votre caniche, osez les sextoys, mais osez, s'il vous plaît. Do it, please do it. Alors pour finir, je dirais que tout cela est à mettre en relation, vous l'avez assez compris, je crois, avec le capitalisme qui, lors de son tournant libidinal, à partir de 1929, longue crise, mais après la Seconde Guerre mondiale, voilà, tout a été relancé, et en plus encore dans les années 60, donc le capitalisme qui s'est mis à exploiter à fond les mécanismes égo-grégaires. C'est-à-dire attrapé par un désir singulier pour, avec des objets qui sont des objets formatés pour des grands nombres. C'est ça la mise en troupeau. On pourra revenir, si vous voulez, sur cette question après, parce que je suis presque à l'heure. Donc, ce capitalisme s'est mis donc à exploiter à fond ces mécanismes en promettant encore plus que la satisfaction des appétences passagères, la réalisation pleine et entière de tous les fantasmes. Eh bien, il était donc normal que cela touche l'érotisme, prodigue et gratuit, au cœur des deux amours, hétéro et homosexuel, et le transforme en une activité hautement rentable, la pornographie, moyennant la mise en place de mécanismes addictifs. Mais tout va bien, puisque vous êtes là pour les soigner. Voilà, je vous remercie.